Bonjour Gérard Longuet.
Bonjour.
Quels enseignements tirez-vous du discours prononcé hier par Vladimir Poutine lors des cérémonies du 9 mai à Moscou? Vous a-t-il semblé, comme certains le disent, moins virulent qu'on ne pouvait le redouter?
Oui, il a situé son action dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre patriotique 41-45, insistant sur la poursuite de la dénazification, mais très clairement... Il a tenu compte de la situation effective de l'armée russe sur le terrain, qui n'est pas une situation aussi facile qu'il le pensait.
Est-ce que ça n'est pas un discours qui nous aurait beaucoup inquiété il y a 3 mois, mais qui aujourd'hui aurait plutôt tendance à nous rassurer un peu?
À partir du moment où il n'y a pas de surenchère et qu'il n'y a pas en particulier de menace sur ce que l'on appelle la co-belligérance, c'est-à-dire le fait que l'Europe... la Grande-Bretagne, les États-Unis aident matériellement d'une façon considérable non seulement la population civile ukrainienne, mais l'armée ukrainienne. Le danger majeur, c'est évidemment l'emballement et donc cette co-belligérance qui pourrait entraîner une escalade. Je n'ai pas senti cela dans le discours de Poutine, qui était relativement bref et qui n'est pas exhaustif sur l'ensemble des sujets.
La co-belligérance, qui est un mot qu'on entend beaucoup depuis le début de ce conflit, c'est une notion très subtile. Où place-t-on la frontière entre ce qui relève de la co-belligérance et ce qui n'en relève pas, dans le cas dans lequel nous sommes, c'est-à-dire avec des livraisons d'armes, y compris offensives, tout à fait massives?
C'est un sujet traditionnel. L'Ukraine est un État indépendant. À ce titre, le droit de la guerre, si on peut parler ainsi, autorise de livrer des armes à un État indépendant qui en fait la demande. Cela dit, la dimension est essentiellement politique et souvenons-nous, enfin personne n'a vécu cela aujourd'hui, la guerre d'Espagne, c'était le problème essentiel du gouvernement de Front Populaire. Fallait-il ou non livrer des armes à l'Espagne qui en demandait, le gouvernement républicain, qui était le seul gouvernement légitime, demandait des armes. Et la France a, je crois d'ailleurs, refusé ces livraisons pour ne pas être co-belligérant. Alors que c'était un État indépendant. Nous pouvons le faire, mais il y a un risque d'escalade.
Est-ce que vous vous attendiez à ce que Vladimir Poutine déclare hier officiellement la guerre à l'Ukraine? C'était un scénario qui était évoqué.
C'est un scénario qui était évoqué, mais qui n'est pas plausible parce qu'il n'aurait pas permis à Poutine, et de ce point de vue c'est important, de défendre l'idée, de soutenir l'idée plus exactement, que son intervention est en fait une protection des populations russophiles, pas simplement russophones, russophiles du Donbass. Et ce que je retiens, moi, personnellement, et en échangeant avec vous, c'est qu'il n'a pas voulu déclarer la guerre, entre guillemets, pour éviter une situation globale, parce que quand vous déclarez la guerre, il faut la gagner. Ou bien vous êtes désavoué par les faits. En entretenant l'ambiguïté, on peut estimer qu'il laisse ouvert une négociation que l'Ukraine n'acceptera sans doute pas, parce que plus l'Ukraine résiste, moins elle se résignera à abandonner une partie significative de son territoire, et en particulier l'accès à la mer d'Azov, qui est une demande, enfin qui est une volonté russe pour assurer la continuité territoriale entre la Crimée et le Donbass.
Vladimir Poutine a exprimé hier sa volonté d'éviter une nouvelle guerre mondiale, un nouveau conflit global, a-t-il dit. Est-ce qu'il faut prendre ce propos au sérieux? Est-ce que ça fait reculer le scénario du pire, c'est-à-dire le recours au nucléaire, qui était assez régulièrement évoqué et avec, au fond, une forme de légèreté ces dernières semaines?
C'est terrifiant. Déjà, la guerre classique, c'est épouvantable. Il faut quand même bien voir que un obus de 155 et y sentir des centaines à chaque heure, c'est l'équivalent d'un terrain de football sur lequel il ne reste plus rien. Donc la guerre classique, c'est atroce. La guerre nucléaire, j'en parle même pas. Même tactique, c'est une arme tactique, c'est au moins Hiroshima. Donc c'est simplement impensable.
Oui.
Enfin, je le souhaite profondément impensable dans la tête des dirigeants mondiaux.
Dans cette guerre que la Russie livre à l'Ukraine, est-ce que l'Europe nous protège ou est-ce qu'en fournissant massivement des armes à l'Ukraine, est-ce qu'elle nous expose?
Je pense qu'elle nous protège. Parce que ce que je reproche profondément à Valéry Poutine, c'est...
Vladimir Poutine.
C'est d'avoir décidé le 24 février qu'un grand pays considère que seule la force apporte une solution. Que nous ayons des guerres locales entre gouvernements incertains, avec des pouvoirs dont la légitimité est discutable, utiliser la force, ça peut se comprendre. C'est hélas un accident observé d'une façon constante. Qu'un grand pays, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est à l'origine de la victoire contre le nazisme, il faut bien le dire, avec un sacrifice de sa population énorme, utilise la guerre traditionnelle, c'est totalement incongru. Et je crois d'ailleurs que c'est en ce sens que l'Europe nous protège, parce que sa réaction montre que l'offensive militaire russe est incongrue, inacceptable. Et je pense très honnêtement que ce courage collectif, individuellement, on aurait parlé, mais on n'aurait rien fait. Collectivement, voilà, c'est bien, ça sécurise.
Alors, à propos de l'Europe, Emmanuel Macron, qui s'est rendu hier à Strasbourg et à Berlin, s'est dit favorable, lors de son discours au Parlement européen de Strasbourg, à une convention européenne pour bâtir donc une nouvelle Europe qui serait plus souveraine, plus solidaire. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette ambition exposée par le président de la République ?
Je trouve que la méthode est tout à fait surprenante. Le président Macron est allé à Strasbourg devant le Parlement, non pas devant le Parlement européen, puisque c'était la salle du Parlement européen, mais c'était une population incertaine, une convention citoyenne, représentant qui, travaillant dans quelles conditions, avec quel mandat et quelle légitimité, on n'en sait strictement rien. Et le président Macron a dit des choses qui sont discutées dans les colloques, portées à la réflexion des think tanks sur une Europe à plusieurs vitesses,
avec la création d'une cercles. Communauté politique européenne serait une espèce d'antichambre
avec
de l'Union européenne.
Une sorte d'antichambre qui existe déjà d'ailleurs dans le traité. Il faut savoir que le traité de l'Union européenne permet, je crois que c'est dans son article 8, d'avoir des coopérations avec les pays frontaliers. Donc tout existe. La seule question qui vaille, est-ce que la majorité qualifiée peut l'emporter sur le principe d'unanimité ? Et ça, c'est pas un problème. C'est un problème politique simple qui doit être traité par les parlements nationaux qui donnent mandat à leurs gouvernements respectifs. Et c'est une décision qui doit être prise à la fois par le Conseil européen, c'est-à-dire les gouvernements, et par le Parlement européen et pas par une convention citoyenne venu de nulle part.
Un mot pour terminer. François Fillon a été condamné hier en appel à 4 ans de prison, dont un enferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse, Pénélope Fillon. Il va se pourvoir en cassation, je le précise. Cette sanction vous paraît-elle proportionnée ?
Non. Non, parce que François Fillon paye seul des comportements qui étaient ceux, sans doute, du tiers de l'Assemblée nationale quand il était lui-même député. Il l'a été longtemps, de 81 à nos jours, enfin à 2017 pratiquement. Et ces pratiques existaient. Et je suis très étonné que l'Assemblée nationale lui réclame à lui personnellement des sommes qu'elle n'a jamais réclamées aux centaines de parlementaires qui, pendant ces 30 dernières années, ont pratiqué cela. Je n'ai jamais travaillé avec ma femme. Nous sommes indépendants, j'en parle librement.
Merci Gérard Longuet. Bonne journée.